Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, la visite d'Emmanuel Macron au Vatican pour sa deuxième rencontre avec le pape. Peu d'informations ont filtré pour le moment. La France et la Grande-Bretagne à couteau tiré autour de la question des migrations suite au drame survenu au large de Calais. Une lettre de Boris Johnson en particulier suscite l'ire de Paris. Une sécheresse qui n'en finit pas au Kenya, mettant à genoux hommes et bêtes. L'insécurité alimentaire est une réalité vécue par 3 millions d'habitants. Nous parlerons enfin de ces rumeurs de coup d'État au Kyrgyzstan. 15 personnes ont été arrêtées alors que le pays d'Asie centrale vote dans 2 jours.
Radio Vatican, le journal. Manuela Affigi.
Bonjour à tous, Emmanuel Macron au Vatican, reçu en audience par le pape François ce matin sur les coups de 11h. Il s'agit de la deuxième visite du président français au souverain pontife. La première avait eu lieu en juin 2018. On ne sait encore rien des échanges entre les deux hommes, sauf un détail sur le cadeau du président Macron, qui offre au pape jésuite 2 biographies de Saint Ignace de Loyola. Plus d'informations dans notre journal de 18h. Le président Macron, qui auparavant a signé le traité du Quirinal lors d'une cérémonie en grande pompe au palais présidentiel ici à Rome avec le président du Conseil italien Mario Draghi, un texte dont l'ambition est de renforcer la relation franco-italienne, celle de deux nations unies par l'histoire, la géographie et la culture, mais qui est aussi régulièrement éprouvée. Paris et Rome veulent former un binôme solide face aux défis européens. Relation beau fixe donc entre la France et l'Italie. En revanche, celle entre la France et la Grande-Bretagne traverse une véritable tempête. Après le naufrage tragique survenu mercredi au large de Calais, les deux capitales avaient appelé à une plus grande coopération sur la question migratoire. Mais une lettre de Boris Johnson a induit un changement de ton. Rendue publique, elle a été jugée inacceptable par la France. À Londres, Jean Jaffré.
Dans sa lettre, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, demande notamment à la France, je cite, « de reprendre immédiatement tous les migrants arrivés au Royaume-Uni à bord de petites embarcations au péril de leur vie ». Et la proposition de patrouille conjointe entre Dunkerque et Calais pour aider des gendarmes et garde-côtes français est aussi rejetée en raison du principe de souveraineté. Pour le gouvernement français, la traversée illégale de la Manche par plusieurs dizaines de milliers de migrants par an est essentiellement un problème européen. Une réunion de 4 pays bordant la Manche et la mer du Nord avec un représentant de la Commission de l'Union européenne se tiendra dimanche, mais sans la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel. Reprendre le contrôle de nos frontières était l'un des slogans des partisans du Brexit. Les photos de migrants débarquant quotidiennement sur les plages du Kent préoccuperaient davantage les députés conservateurs que les récents scandales de corruption, les promesses électorales non tenues et l'impopularité de Boris Johnson. Le chef du groupe conservateur aux communes, Jacob Rees-Mogg, n'expliquait-il pas récemment l'aggravation des tensions en invoquant les défaites d'Agincourt et de Trafalgar qui rendraient les Français grincheux en cette période de l'année? Laurent Jean Jaffré, Radio Vatican.
Ce drame survenu mercredi est au cœur d'un message publié hier par les évêques français des diocèses du Nord. Qu'avons-nous fait de nos frères, s'interroge-t-il avec émotion. Aujourd'hui, une prière aura lieu à 17h dans la zone portuaire de Dunkerque, en hommage à ses victimes. Et puis, autre point de contentieux entre la France et la Grande-Bretagne, celle de la pêche. Cela fait des mois que les pêcheurs français attendent des licences de Londres pour pouvoir jeter leurs filets dans les eaux britanniques, conformément à l'accord du Brexit. Mais ces licences ne viennent pas. Aussi, les pêcheurs de l'Hexagone ont-ils lancé des opérations de blocage dans plusieurs ports de la côte ouest pour empêcher les navires britanniques d'y entrer. L'Europe se ferme à l'Afrique du Sud et plus généralement à l'Afrique australe. Tous les vols en provenance de cette zone sont suspendus dans plusieurs pays. En cause, la découverte d'un nouveau variant du coronavirus, potentiellement très contagieux et sujet à de multiples mutations. Israël indique ce matin avoir recensé un cas de contamination à ce variant. C'est peut-être le début d'un long processus de justice en Gambie. La TRRC, la Commission de vérité, réconciliation et réparation du petit pays d'Afrique de l'Ouest, a remis hier son rapport final au président Adama Barrow. Le document fait la lumière sur les crimes commis durant les 22 ans de régime de l'ancien chef d'État Yahya Jammeh, notamment la mise en place d'escadrons de la mort. La commission recommande notamment des poursuites contre les responsables. La correspondance sur place de Benoît Almeras.
Après 3 ans d'audition, la TRRC a finalement soumis son rapport d'enquête. 17 volumes, plus de 200 recommandations. Le but, rendre justice aux victimes de plus de 400 crimes commis entre 1994 et 2016. Les commissaires ont entre autres enquêté sur les exécutions sommaires d'opposants politiques, les thérapies forcées infligées à des malades du sida, ou bien le massacre d'une cinquantaine de migrants ouest-africains en 2005. Pour autant, la liste des auteurs identifiés par la commission n'est pas connue, car le rapport n'est pas encore public. La présidence gambienne dispose officiellement de 30 jours pour soumettre le document aux Nations Unies notamment. Sauf qu'entre-temps, les Gambiens sont appelés aux urnes pour élire leur futur président. Ce sera dans un peu plus d'une semaine, un vote sur lequel plane l'ombre de Yahya Jammeh. L'ex-chef d'État en exil pèse toujours sur le monde politique. Les militants des droits humains redoutent donc un possible enterrement des recommandations de la TRRC en fonction du résultat de la présidentielle. Pendant la remise du rapport, le président de l'instance s'est lui-même inquiété d'un possible pardon accordé aux responsables de ces crimes. Benoît Almeras, Dakar, pour Radio Vatican.
Afrique toujours, avec le nord du Kenya en proie à une crise humanitaire. La sécheresse affecte près de 3 millions de personnes dans cette région aride du pays. En cause, le dérèglement climatique. Et la réponse du gouvernement est jugée insuffisante face à cette crise alimentaire majeure. À Nairobi, Charlotte Simonard.
La terre rouge d'Afrique craquelée, les puits asséchés, la population et les troupeaux affamés, voire mourants. Le nord du Kenya vient d'enchaîner 3 mauvaises saisons des pluies et la prochaine n'est pas attendue avant plusieurs mois. Des populations qui vivent essentiellement de l'élevage, mais les bétails sont décimés par la soif. Des conflits éclatent entre tribus en quête de la même chose, de l'eau. Effet direct du dérèglement climatique, il y a quelques années encore, les périodes de sécheresse survenaient tous les 5 à 7 ans. Et désormais, seuls 2 à 3 ans les séparent. Trop peu pour régénérer les points d'eau en suffisance. Selon l'ONU, plus de 465 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition et 93 000 femmes enceintes. En septembre dernier, le gouvernement kényan avait bien déclaré catastrophe nationale cette région du nord du pays. Mais l'argent débloqué est insuffisant devant l'ampleur du désastre et n'arrive pas sur le terrain. Les Nations Unies lancent une levée de fonds colossale pour venir en aide à ces populations. Alors que l'Éthiopie et la Somalie souffrent également de cette sécheresse qui n'en finit pas. Charlotte Simonard, Nairobi, pour Radio Vatican.
Les violences urbaines persistent en Martinique malgré l'instauration d'un couvre-feu. Hier soir, des tirs ont ciblé des journalistes ainsi que des policiers. L'un d'entre eux a été blessé. Un geste inacceptable a réagi Paris ce matin. Des discussions ont débuté avec des élus locaux pour tenter d'apaiser la situation. Le Kyrgyzstan, de nouveau en pleine instabilité. 15 personnes ont été arrêtées, soupçonnées de fomenter un coup d'État. Un coup de filet qui intervient à 2 jours d'élections législatives dans ce pays d'Asie centrale, miné par des luttes de clans depuis des années. Les précisions d'Olivier Bonnel.
Selon les autorités kirghizes, le groupe de personnes arrêtées planifiait d'organiser des manifestations d'envergure à Bishkek, la capitale, des manifestations qui auraient conduit à des affrontements avec les forces de l'ordre et à s'emparer du pouvoir par la force, a précisé ce matin le Comité étatique pour la sécurité nationale dans un communiqué. Les services de sécurité auraient réuni des preuves irréfutables des agissements criminels de ce groupe qui planifiait de pousser à la violence 1000 jeunes gens agressifs à l'issue du scrutin législatif de dimanche prochain. Des armes auraient par ailleurs été saisi. Le Kyrgyzstan, autrefois appelé la Suisse d'Asie centrale en raison de sa stabilité relative par rapport à ses voisins, est cependant travaillé par de profondes divisions. Il y a 2 ans déjà, le président d'alors, Sooronbay Jeenbekov, avait tenté de faire arrêter son prédécesseur, Almazbek Atambayev, sans succès. L'actuel président Sadir Japarov, au pouvoir depuis janvier dernier, est lui un ancien prisonnier politique libéré grâce à la pression de ses partisans. Il a depuis renforcé son pouvoir en supprimant la limitation des mandats présidentiels. Japarov qui peine surtout à vaincre l'un des maux principaux du pays, la corruption.
Olivier Bonnel. Retour au Vatican avec la publication d'un motu proprio par lequel le pape institue une nouvelle commission auprès du tribunal de la Rote romaine. Elle a pour mission d'accompagner les diocèses italiens dans l'application de nouvelles règles concernant les déclarations de nullité de mariage. Tous les détails sur vaticannews.va. Et puis avant de conclure, un petit détour du côté de la terre des pharaons. L'Égypte hier a inauguré l'allée des béliers, des statues de sphinx datées de 3500 ans qui mènent au temple de Karnak et dévoilé au public lors d'une cérémonie grandiose. L'objectif est de faire de ces lieux un musée à ciel ouvert, affirme le ministère égyptien du tourisme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est Xavier Sartre que vous retrouverez ce soir aux commandes du journal de 18h. Très belle journée à tous.